L'actualité des Alpes du Sud est donc législative. Joël Giraud qui sort du silence.
L'ancien député Renaissance sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes voterait sans hésiter pour Marie-Josée Allemand, la candidate du nouveau Front Populaire. Un soutien un peu plus du bout des lèvres pour Valérie Rossi, autre candidate de gauche dans les Hautes-Alpes qui a été longtemps son assistante parlementaire. Il appelle simplement à faire barrage au Rassemblement National.
Du côté des Alpes de Haute-Provence, 7 syndicats appellent à voter pour les candidats du nouveau Front Populaire.
Et Europe Écologie Les Verts 04 qui tacle de son côté Sophie Vaginet-Ricourt, la candidate du RN aux promesses démagogiques, disent-ils. Des candidats RN aux abonnés absents, Christian Girard et Sophie Vaginet-Ricourt avaient été invités par les rédactions d'Alpe 1 et de la Provence à débattre dans cet entre-deux-tours. Mais depuis plusieurs semaines, nos appels résonnent dans le vide. Il n'y aura donc pas de débat sur des sujets comme les urgences de Manosque, l'agriculture, la désertification médicale ou encore l'économie. Et Alpe 1 n'est pas la seule rédaction en France touchée par ce refus de débat des candidats RN.
Et puis direction le Grand Air du lac de Serre-Ponçon.
400 jeunes de toute la planète se réunissent durant une semaine pour le championnat d'Europe jeunes et juniors Windfoil. Et puis, l'information mignonne du jour. Le centre de loisirs de Chorges veut sortir du béton et prendre l'air, là aussi, dans la forêt du cèdre de l'Atlas. 14 hectares sont mis à disposition des enfants pour s'éveiller aux enjeux de la nature. Météo, c'est un ciel bleu.
Ah oui, temps estival pour ce jeudi sur nos deux départements. Alors avec quand même peut-être quelques cumulus qui se feront rares en montagne cet après-midi. Côté température, on gagne quelques degrés. Les maxis sur nos deux départements de 25 à 30 degrés. Législative et Joël Giraud qui sort donc du silence.
L'ex-député Renaissance qui a choisi de ne pas se représenter sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes prend part à cet entre-deux-tours et donne consigne de vote. Il apporte un soutien sans faille à Marie-Josée Allemand, la candidate du nouveau Front Populaire sur la première circonscription du département. Si j'étais électeur, je voterais pour elle sans hésiter. Elle n'a jamais varié dans ses convictions ou dans ses combat, un soutien un peu plus dans la modération pour Valérie Rossi, la candidate de gauche sur la seconde circonscription, Valérie Rossi, qui a été longtemps à ses côtés en tant qu'assistante parlementaire. L'ancien ministre enjoint, c'est le mot qu'il emploie, les électeurs à voter pour elle afin de faire barrage au Rassemblement National. Et toujours sur cette seconde circonscription des Hautes-Alpes, l'entre-deux-tours donne lieu à un bras de fer entre le maire de Briançon et certains partis de gauche. Alors qu'Arnaud Murgia a annoncé qu'il ne voterait jamais pour la France Insoumise et ses alliés, pour Europe Écologie Les Verts, il fait le choix de la lâcheté et du déshonneur. Lourde faute politique pour les Insoumis du Briançonnais, il n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'un maire républicain à minima appelé à voter contre l'extrême droite, fin de citation. Contacté par Alpe 1, Arnaud Murgia estime qu'il n'a aucune leçon de morale à recevoir des écologistes ou des insoumis qui soutiennent, je cite, Monsieur Mélenchon et les propos odieux qu'il tient, qu'il commence par s'excuser en ayant fait de l'Assemblée nationale une ZAD ou en ne condamnant pas les actes terroristes du Hamas.
Dans les Alpes de Haute-Provence, là aussi, certains élus s'étonnent du silence de dirigeants politiques.
Les 7 élus d'opposition à Fort-Calquier qui demandent de la clarté républicaine, ils se tournent vers des responsables comme Éliane Bareil, la présidente du conseil départemental, Jean-Yves Roux, le sénateur, Patricia Granet-Brunello, la maire de Digne-les-Bains et présidente de l'agglomération, ou encore Elisabeth Jacques, présidente de la communauté de communes de la vallée de Lubaye-Serre-Ponçon, qui n'ont pour leur part indiqué publiquement de consignes de vote. L'opposition de Fort-Calquier regrette également la position du maire David Géant ainsi que celle du maire de Manosque Camille Galtier qui appelle à voter blanc. Cela revient mécaniquement a donné la victoire au Rassemblement National. Quant à certains syndicats basalpins, le message est très clair. Il faut voter nouveau Front Populaire. Ils sont 7 à se dire inquiets à l'issue du premier tour qui a mis en tête les candidats du Rassemblement National, Sophie Vaginet-Ricourt et Christian Girard. CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, CFTC et la Confédération Paysanne dans les Alpes de Provence espèrent un sursaut démocratique. Sylvain Moretti et le secrétaire général de la CGT 04.
Les conséquences du passage au Rassemblement National seraient catastrophiques sur le droit des travailleurs. Il y a une mobilisation historique, puisqu'on a réussi à créer une unité syndicale sur le département qui appelle clairement à battre l'extrême droite dimanche au niveau du second tour des élections législatives. Le Rassemblement National qui prétend défendre les travailleurs, c'est totalement l'inverse. Le Rassemblement national, il a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur les prix. Il a voté contre la revalorisation des petites retraites. On sait clairement ce que porte le Rassemblement national. La division des travailleurs, c'est des politiques qui ne vont pas dans le sens du développement des libertés et du progrès social.
Et puis les écologistes Europe Écologie Les Verts 04 de la Vallée de l'Ubaye espèrent aussi des élus de la Vallée qu'ils soutiennent Léo Valter du Nouveau Front Populaire. Dans une lettre ouverte, ils appellent à faire barrage à l'extrême droite. Pour eux, la maire de Barcelonnette, Sophie Vaginéricourt, candidate du RN, a multiplié les promesses démagogiques dans une pure logique électoraliste.
Candidat RN, parlons-en, ils sont aux abonnés absents, Cyril.
Visiblement, depuis le premier tour, ça ne capte pas dans les rangs du Rassemblement National. Vous le savez, Alpin a dans cet entre-deux tours des législatives organisé les débats sur vos circonscriptions. Vous avez d'ailleurs pu retrouver les candidats dans les Hautes-Alpes ce mardi et mercredi, Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand pour le Nouveau Front Populaire, opposés à Louis Albrand et Jérôme Sainte-Marie du Rassemblement National. Malheureusement, nous ne pourrons honorer les débats d'entre-deux tours sur les Alpes d'Haute-Provence, des débats organisés avec nos confrères de la Provence. La raison est bien simple, les candidats du Rassemblement National le refusent. Christian Girard, député sortant sur la première circonscription, avait dans un premier temps donné son accord pour y participer jusqu'à dimanche, soir du premier tour des législatives. Et depuis, il a invoqué plusieurs raisons, notamment le vol de ses affiches de campagne à Digne-les-Bains, pour au final ne plus répondre à nos sollicitations. Du côté de Sophie Vaginéricourt, candidate du parti RN sur la seconde circonscription, c'est bien pire, elle n'a jamais daigné répondre à nos multiples appels depuis l'annonce de sa candidature. De quoi d'ailleurs étonner un responsable du RN dans les Alpes-de-Provence qui regrette que ses candidats ne jouent pas le jeu de la démocratie. « Je ne les comprends pas », nous a-t-il déclaré. Regrettable, c'est aussi le mot employé par Léo Valter, député sortant, candidat du Nouveau Front Populaire sur la seconde circonscription des Alpes-de-Provence, qui lui avait accepté le débat.
Malheureusement, c'est un refus de la démocratie, tout simplement, parce que les débats de second tour sont des moments importants. Il me semble que, tout simplement, c'est la marque de l'impréparation et de l'incompétence du Rassemblement national, qui préfère ne pas débattre que, excusez-moi l'expression, se faire plier dans un débat par des candidats mieux préparés, plus compétents et plus capables d'assurer le rôle de député.
Pourtant, des réponses sont attendues sur votre circonscription, Léo Valter, notamment par rapport aux urgences de Manosque, qui affiche une succession de fermetures nocturnes et diurnes. Quelle est votre proposition pour régler ce problème ?
J'étais en train de préparer avec mon cabinet, et j'espère bien pouvoir la déposer très rapidement si je suis réélu, une proposition de loi pour réinstaurer la CAMU. Alors c'est un peu technique, mais c'est la certification d'aptitude à la médecine d'urgence et qui permettait à un médecin de se lancer dans la carrière d'urgentiste sans être obligé d'y être enfermé pour l'ensemble de sa carrière, qui permettrait de retrouver un vivier de médecins urgentistes et donc de rouvrir, entre autres, les urgences de Manosque.
Et Alpin, qui n'est pas la seule rédaction qui ne pourra répondre aux enjeux démocratiques, le réseau de nos confrères de Radio France Bleu révèle avoir dû aussi annuler une vingtaine d'émissions à cause du refus des candidats RN d'y participer.
Léo Valter, hein, vous l'entendiez, hein, qui axe notamment ces derniers jours de campagne sur les urgences de Manosque.
Un service qui annonce de nouvelles fermetures la nuit jusqu'au 22 juillet inclus. Et les journées des 13, 18, 19, 20, 21 et 22 juillet, la situation ne s'améliore donc pas à l'hôpital de Manosque, ce qui conduit Camille Galtier à démissionner du conseil de surveillance. Le maire de la ville, président de DLV Agglo, avait déjà mis en garde en janvier. Si aucune amélioration n'était constatée, il rendrait son tablier. Malgré les multiples alertes au ministère de la Santé ou à l'ARS, Camille Galtier estime ne pas avoir été entendu. Il démissionnera au 1er septembre. En attendant, l'élu d'y être mobilisé sur deux sujets, le recrutement du prochain directeur de l'hôpital et le projet d'extension.
Et dans cette ambiance politique un peu lourde, hein, on va prendre un peu l'air, direction Cyril, le lac de Serre-Ponçon.
400 jeunes de toute la planète, français, chinois, thaïlandais, mexicains ou même brésiliens, se sont donné rendez-vous pendant une semaine jusqu'au 11 juillet. C'est le championnat d'Europe jeunes et juniors Windfoil, championnat de planche à voile, donc open pour ouvert, puisqu'il n'y a pas que des Européens. C'est organisé par le club nautique alpin Serre-Ponçon. Trois jeunes du club, Marceau Didier, Mathéo Certain et Titouan Alamano Savoie, auront à cœur de faire briller le territoire. Ils auront près de 10 km de terrain de jeu, puisque les courses se déroulent entre le pont du Rio Bourdou jusqu'aux eaux douces. Un lac qui, avec ses conditions très favorables, permet de recevoir de tels événements. Thierry Alamano, directeur du club nautique alpin Serre-Ponçon.
Serre-Ponçon, il a quand même cette particularité pendant cette période actuelle d'avoir des conditions météo qui sont très propices à la navigation en foil. Plan d'eau plat, pas de vagues. Un vent thermique qui peut être régulier normalement tous les après-midi et qui est plutôt modéré. C'est des conditions optimum pour faire du foil dans le monde. On est les précurseurs sur le développement de la pratique du foil depuis longtemps. On était dans les premiers à développer les premières compétitions de foil dès 2015. On a avancé sur ce projet-là. On a déjà organisé aussi des compétitions d'envergure nationale, comme le Tour de France à la voile, par exemple, où on avait eu la finale. Au fur et à mesure du temps, on a quand même une reconnaissance de ce site qui est de plus en plus admise.
Alors, direction Briançon avec une expérimentation qui va faire plaisir aux piétons.
La rue centrale sera dénuée de voitures chaque mercredi entre le 14 juillet et le 15 août. C'était déjà le cas pour les soirées d'été. Après avoir sollicité par le biais d'un sondage les commerçants, la ville a donc décidé de mettre en place cette fermeture en journée dès 11h les jours de marché. Et puis on termine par cette info mignonne et verte pour finir l'actualité. Alors que les vacances s'approchent, c'est demain pour les parents qui l'auraient oublié. Et bien au centre de loisirs de Chorges, on veut sortir du béton pour investir la forêt du cèdre de l'Atlas. 14 hectares mis à disposition par l'ONF dans le cadre du programme La Forêt Fête École. Le mercredi, une cinquantaine d'enfants peuvent venir découvrir la biodiversité entre les pins d'Alep et les chênes verts. Nino d'Albera s'est lui aussi inscrit au centre de loisirs pour suivre l'atelier pédagogique animé par l'artiste Fabiana Rossignol et Cécile Portelli.
Bonjour madame, qui êtes-vous et où est-ce qu'on est ?
Je suis Cécile Portelli, la directrice de l'accueil collectif de Mina. Alors nous sommes dans la forêt pédagogique du Cèdre de l'Atlas qui se situe sur la collectivité de Chorges. Alors le but de cette forêt, c'est de faire prendre conscience aux enfants de l'intérêt de la nature aujourd'hui. Voilà, nous on est dans un centre de loisirs où c'est beaucoup de bitume quoi. Donc l'idée, c'était qu'ils s'investissent dans un lieu. Premier atelier, c'est d'aller à la recherche des panneaux qui ont été fabriqués par les enfants âgés de 6 à 11 ans et des panneaux qui représentent en fait les animaux de cette forêt. Alors cette technique, on peut peut-être demander à Fabiana la technique de dessin du panneau, c'est très intéressant.
Alors, les panneaux ont été gravés et ensuite peints. Ils ont été vitrifiés, donc ils sont imperméables. Et au dos de chaque panneau, il y a un petit explicatif sur chaque animal de la forêt. Moi, j'ai créé l'image, les enfants ont écrit les textes et voilà. Et c'est un petit peu un jeu de piste sur les animaux de la forêt.
Il y en a combien ?
12 panneaux, on passe du chevreuil au blaireau, à l'aigle, voilà. On arrive au final par le plus emblématique, le loup.
Pourquoi le loup ?
C'est un sujet qui peut causer un peu de litige ici ou qui est assez délicat à aborder. Mais moi, j'ai juste posé une question qu'on trouve à la fin. Le loup est-il arrivé en France dans les années ? À quelle période est-il arrivé en France ? Et de quel pays voisin vient-il ? Et ce sont aux enfants de répondre.
Quel plaisir vous avez à être avec les enfants ?
Moi, le plaisir, c'est comme une chasse aux œufs. C'est qu'ils trouvent les panneaux et puis qu'ils trouvent la réponse. Et puis ensuite, voilà quoi. C'est plutôt le fait qu'ils trouvent le panneau et qu'ils s'intéressent à l'animal.
Il y a un panneau ici, vous l'avez manqué.
Oui, mais il y a un panneau là.
Il y a une question sur le hibou, chef. Comment s'appelle le cri du hibou ? Houhou ! C'est plutôt ça. Houhou ! Ça s'appelle le
ululement.
J'arrive bien.
J'arrive pas.
Ça nécessite quelques heures d'entraînement. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver.
Mais oui, bien sûr, il va y arriver. Un reportage à retrouver sur alpe1.com.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.